Bonjour, vous êtes sur www.fréquencemistral.com dans votre émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Patchwork de mots, de notes et de sons. Et si tout ceci n'était qu'une suite de rencontres. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou laisser les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs.
J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de 1000 ans. J'habite une guerre de 300 ans. J'habite un culte désaffecté entre bulbes et cailloux. J'habite l'espace inexploité. J'habite du basalte, non une coulée mais de la lave, le mascaret qui remonte la caleuse à toute allure et brûle toutes les mosquées. Je m'accommode de mon mieux de cet avatar d'une version du paradis absurdement ratée. C'est bien pire qu'un enfer. J'habite de temps en temps une de mes plaies. Chaque minute je change d'appartement et toute paix m'effraie. Tourbillon de feu acidi, comme nul autre pour poussière de mondes égarés, ayant craché volcan mes entrailles d'eau vive, je reste avec mes pains de mots et mes minerais secrets. J'habite donc une vaste pensée, mais le plus souvent je préfère me confiner dans la plus petite de mes idées. Ou bien j'habite une formule magique, les seuls premiers mots, tout le reste étant oublié. J'habite l'embâcle, j'habite la débâcle. J'habite le pan d'un grand désastre. J'habite souvent le pis le plus sec du piton le plus efflanqué, la louve de ses nuages. J'habite l'auréole des cétacés. J'habite un troupeau de chèvres tirant sur la tétine de l'arganier le plus désolé. À vrai dire, je ne sais plus mon adresse exacte, batiale ou abyssale. J'habite le trou des poulpes. Je me bats avec un poulpe pour un trou de poulpe. Frère, n'insistez pas. Vrac de varech m'accrochant en cuscute ou me déployant en porona, c'est tout un. Et que le flot roule, et que ventouse le soleil, et que flagelle le vent, ronde bosse de mon néant, la pression atmosphérique, ou plutôt l'historique, agrandit démesurément mes mots, même si elle rend somptueux certains de mes mots. Don't wanna stare.
Don't wanna stare. I don't really care or share with you. I'd rather walk alone. I'll forget you where I was. I don't really think it's fair of you. I'd rather stay home. I'm forgetting just because.
Don't wanna stare.
Control.
Chaque jour, c'est un combat, et chaque nuit est un combat. Mais je veux tenir, je veux vivre, je ne peux pas rester enfermé dans une chambre malade. Je sais qu'il y a un grand combat, et je veux, de toute manière, et dans la mesure où j'ai un reste de force, m'y intéresser et y participer. Nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas rien. C'est une humanité. Mais en même temps, les autres existent et ce sont des frères. Donc il nous faut une fraternité. Et je crois que contrairement à ce qui se passait au 10e siècle et même au début du 20e, le monde en a pris conscience. Il n'y a pas les grands et les petits, il y a, nous sommes tous des peuples, et nous méritons d'être considérés comme des peuples avec la dignité que cela représente. J'ai apporté une parole d'homme. Il y a l'homme, et ça c'est très important. L'homme tout court, je crois vraiment à l'homme, à l'humanité et à la fraternité. Et quand je parle de négritude, c'était pour répondre précisément aux racistes, hein, qui ne considéraient comme des nègres, autrement dit des riens. Ben non. Nègre, vous m'appelez ? Eh bien oui, nègre je suis. N'allez pas le répéter, mais le nègre vous emmerde.
Tout comme celui du prix d'un parlementaire que nous avons tenté d'éclairer ici même, le problème du colon traîne dans l'atmosphère vaporeuse comme la queue d'un singe pêcheur dans le Gange. Comme il n'est rien de plus agréable que de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, si ce n'est de dire aux gens qu'on n'aime pas qu'on ne les aime pas, je vais sans plus tarder, aujourd'hui même, vous exposer ce qu'il est séant de penser du colon. En anatomie courante, le colon est une partie de l'intestin où se rassemblent avant leur expulsion les déchets de la digestion. Ici, par une espèce de synecdoque, c'est le colon, sans accent circonflexe, qui se prépare à jouer le rôle de déchet. Il y a là-dedans quelque chose d'assez prophétique. Cet avant leur expulsion devrait éclairer toutes les cloques, basses ou hautes, qui continuent de digérer de l'Indochine à la Tunisie. Notre colon, à nous, s'efforce préalablement à son départ d'accumuler le plus de matière nutritive possible. En ce sens, son fonctionnement se rapprocherait plutôt de celui de l'intestin grêle. Néanmoins, on voit que tout ça se passe au niveau de l'abdomen et non point à celui du cerveau. Notre colon a réussi par un beau tour de force évolutif à assimiler parfaitement la piastre et d'autres nourritures de papier indigestes pour l'homme normal. Il s'en est même engraissé. Et l'espèce dite du diételme, une sorte de ver bouffeur qui vit en rémora avec le colon, aurait selon certaines feuilles malveillantes acquis un embonpoint particulièrement remarquable. Nous n'avons pas prolongé outre mesure les investigations anatomiques. Sous le scalpel, le colon exude un jus véritablement répugnant qui lève le cœur. Cependant, on peut noter encore physiologiquement parlant que le colon ne se développe bien que dans un environnement qui, lui, dépérit. Au vrai, il nous semblerait même que ce soit la présence du colon qui provoque ce dépérissement. On remarquera au voisinage des entassements de colons l'existence, notamment en Afrique du Nord, de zones dites bidonvilles, établies mais en moins chères sur le modèle des camps de concentration et dans lesquelles on réalise mécaniquement une remise à zéro de l'indigène, matière première réelle de la vie du colon, et sur laquelle nous croyons, pour que notre conglobation se mue en synatroïsme, que le temps est venu de nous étendre un peu. Car si le colon se satisfait de nourriture aussi éloignée en apparence que la piastre et l'indigène, c'est que selon un processus admirablement mis en lumière par quelques chercheurs sagaces, il réalise au préalable le tour de force de convertir l'indigène en piastre, ou même en franc, qui sont une autre espèce de papier dont il est friand. Là, nous avons à nous sentir un peu dépassés pour l'analyse précise de la méthode. Il est des profondeurs auxquelles le colon seul peut atteindre, et c'est là que ça se passe. Pourtant, l'énumération de quelques-uns des accessoires employés par le colon pour cette étrange alchimie ne manquera pas de vous ouvrir quelques lumières. Le colon isolé, jadis, se satisfaisait assez de la chicotte, au besoin du revolver. Cependant, il s'est assez vite rendu compte que ce second instrument, un genre de poinçonneuse extra-rapide, laissait l'indigène en mauvais état et ne l'emploie plus que par plaisir en dehors du travail de digestion. L'exemple le plus récent d'utilisation massive de ces instruments et d'autres de modèles extrapolés que l'on nomme fusil ou canon fut observé à Madagascar avec un rendement, paraît-il, excellent. Le plus utilisé cependant des outils coloniaux est la police. C'est un conglomérat de choses vivantes du genre fripouille, condamné par leur idiosyncrasie à ne jamais s'attaquer qu'aux êtres humains désarmés et de préférence affaiblis ou attachés. On conçoit que toute l'action de la police, étant donné ce caractère, vise à réaliser, comme le colon parmi les indigènes, sans armes, mais souvent nerveux et râleur, un état d'insuffisance permanente qui les lui livre sans défense. L'action policière, qui complète ainsi celle du colon, est presque toujours taylorisée. La division du travail se pratique en bon ordre et selon le procédé de la chaîne. On fait d'ordinaire circuler l'indigène au long d'une file double de gueules de vache dont chacune exécute un geste précis. Les chaînes assez longues amènent la mort de l'indigène. Dans le cas contraire, on le réserve encore vivant à l'intention d'une variété de fripouilles moins abondantes, celle des inspecteurs, qui sont en quelque sorte le bureau d'études du passage à tabac. On leur doit d'intéressantes innovations, comme l'empalage aux manches de balai, l'électrocution sur secteur, l'asphyxie en plusieurs temps, sèche ou aqueuse, voire la castration simple ou la banale partie de chaussettes à clous. Chargé des public relations, le commissaire, spécialiste de l'euphémisme et de l'apodioxys, auquel il mêle volontiers le diazyrme et l'antipophore, évoque l'activité de ses subordonnés en des comptes rendus pleins de modération, d'où il appert que les accidents ou maladies subites sont infiniment fréquents dans les locaux de la police, faute de crédit pour les désinfecter. Sur quoi l'on en vote et l'on fait suer le burnou pour payer.
Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues.
Oh! I feel all right. Yes, I begin to feel all right now. Splash! Splash! Yeah, yeah, I tell you, everything's gonna be all right.
Ainsi, physiologiquement, la vie du côlon est une symbiose complexe. Il s'y ajoute un parasitisme supplémentaire, celui du militaire. Variété d'hommes amoindris par le procédé de l'uniforme, qui est une préparation à l'uniformité totale du cercueil. L'uniforme, espèce de cible en forme d'individu, se met volontiers au service de la police, qu'il double fréquemment, ou du côlon, à qui il ne coûte pas cher, ses frais d'entretien étant généralement supportés par l'indigène. Il nous resterait maintenant, pour être complet, à examiner tout au moins sommairement la sociologie du côlon. Que nous avons effleurée déjà par place, elle s'exprimera plus simplement par quelques aperçus sur sa mentalité, dont on déduira son comportement en groupe. Poussé à bout, un vieux colonial ne manque jamais de s'exclamer « Enfin, monsieur, nous leur avons apporté la civilisation à ces gens-là » Sur quoi un titi se lève dans l'assistance et s'écrie d'une belle voix de contralto « Si vous leur avez apporté la civilisation, faudrait peut-être les traiter comme des gens civilisés ?» Et le colon superbe répond d'une voix ample « Il n'y a rien à faire avec ces brutes !» On le voit, ma métabase est subtile. Que veut dire par sa première proposition le vieux colonial ? Et pourquoi enchaîne-t-il de la sorte ? Il y a dans tout ce qui concerne le colonialisme une curieuse réversion du sens des mots, laquelle s'exprimera le mieux par cette couverture du supplément illustré du Petit Journal, paru vers 1900. On y voit, sous une tente, un beau militaire tout blanc brûler la cervelle à un indigène désarmé et d'allure inoffensive. Et la légende porte « trait d'héroïsme du général Gallieni à Madagascar ». Ceci éclaire d'un jour singulier tout le problème. Le monde du colonial est un monde inversé, où l'héroïsme c'est la boucherie, où la légalité c'est son caprice, où la justice c'est la raille, où le citoyen qualifié n'est pas le premier occupant mais l'intrus, et où le résistant prend le nom de terroriste. Le cerveau du colonial est-il le négatif du cerveau de l'homme normal? Et compte-t-il sur le soleil pour le développer? Encore une erreur funeste, on ne les compte plus. L'ennui du colon, c'est l'indigène, sans qui il est pourtant absolument désemparé. L'ennui de l'indigène, c'est le colon. La solution consisterait, semble-t-il, à les séparer. Une séparation peut se faire de diverses façons. On va bientôt avoir un exemple de séparation nette en Indochine, où le colon, purement et simplement, s'en retournera d'où il vient. Les Mau Mau utilisent l'astuce de la précipitation ou transformation de l'un des composants du mélange en résidu insoluble, dit aussi cadavre. Pour ce faire, ils se sont bornés, confiants, dans l'efficacité des méthodes qui leur furent appliquées, à proclamer l'ouverture de la chasse avant la date prévue. Cela semble commencer à fonctionner à la satisfaction générale. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc étudient actuellement le problème. Qu'ils soient assurés de notre sympathie. On mesurera l'abnégation de cet encouragement si l'on réfléchit que les colons qui seront expulsés de là-bas risquent de nous retomber sur le dos et qu'il est assez peu alléchant d'envisager l'arrivée de ces gens moralement ignobles, mentalement arriérés, imbus de leur supériorité imaginaire et complètement dépourvus de logique. Mais quoi, après tout, nous n'avons rien fait contre, alors que ça nous dégoûte. Il sera donc juste que nous subissions un petit quelque chose, bien peu au regard de ce que subissent là-bas tant d'honnêtes bougres. On peut naturellement évoquer une solution de compromis. On me parlera de situations de fait, de nécessités inéluctables, d'intérêts en jeu et autres tartes à la crème. Revenons un peu aux sources, je vous prie. Qu'est-ce que nous avons été faire aux colonies ? Les colonies elles-mêmes, me répond-on. Eh bien, si c'était pour ça, il aurait mieux valu rester chez soi. Conçoit-on l'absurde d'une telle situation ? Se rendre là-bas à seule fin que ce là-bas existe et se pose en problème. C'est de la manie, ma parole. À bien creuser, il est possible que la question soit du même ordre que celle qui taquine depuis tantôt 25 siècles les mathématiciens. Le monde mathématique est-il un existant que l'on découvre ou n'existe-t-il qu'à mesure qu'il est découvert? Est-ce un domaine que l'on explore ou un parapluie que l'on ouvre? Bref, y aurait-il des colonies sans les coloniaux? Répondons hardiment oui et non. Car des colonies sans colons ne seraient pas des colonies. Mais nul ne niera que sans Bugeaud, l'Algérie s'étendrait quand même au sud de la Méditerranée. Du moins, je le crois. Après tout, je n'en sais rien. Je me suis bien avancée aujourd'hui. D'habitude, je suis si mesurée dans le fond comme dans la forme. Et si Maroc demain me suspend mon abonnement, hein? Avec quoi j'allumerai le feu cet hiver? Le voilà le premier problème colonial. Et le second, c'est l'ennui. Le colonial, être inférieur, a conscience néanmoins de son infériorité, ce qui lui flanque un vigoureux complexe, et il a le cafard, parce qu'il est trop bête pour se faire rire. Alors il se distrait en faisant des tas d'enfants. Le problème de l'espace vital s'enfle et s'étend. Les enfants pauvres sont obligés d'aller chercher fortune aux colonies, et ça recommence, et ça continue. Le soleil, lui, sur la ville et sur les champs, mais pas pour tout le monde, parce qu'il y en a plein en prison. Heureusement pour eux, comme ça, ils ne liront pas les revues actuelles qui manquent vraiment par trop de tenue littéraire et font preuve d'un dangereux esprit réactionnaire fort insalubre pour le prisonnier moyen. Ainsi soit-il.
Train a coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine. I bet I'd move it on a little farther down the line, far from Folsom Prison. That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Un jour bientôt peut-être, un jour j'arracherai l'ancre qui tient mon navire loin des mers. Avec la sorte de courage qu'il faut pour être rien et rien que rien, je lâcherai ce qui paraissait m'être indissolublement proche. je le trancherai, je le renverserai, je le romprai, je le ferai dégringoler. D'un coup dégorgeant ma misérable pudeur, mes misérables combinaisons et enchaînements, vidé de l'abcès d'être quelqu'un, je boirai à nouveau l'espace nourricier. À coup de ridicule, de déchéance, qu'est-ce que la déchéance ? Par éclatement, par vide, par une totale dissipation, dérision, purgation, j'expulserai de moi la forme qu'on croyait si bien attachée, composée, coordonnée, assortie à mon entourage et à mes semblables, si digne mes semblables. Réduit à une humilité de catastrophe, à un nivellement parfait comme après une intense trouille. Ramené au-dessous de toute mesure à mon rang réel, au rang infime que je ne sais quelle idée ambition m'avait fait déserter. Anéanti quant à la hauteur, quant à l'estime, perdu en un endroit lointain ou même pas, sans nom, sans identité. Clown, abattant dans la risée, dans le grotesque, dans l'esclaffement, le sens que contre toute lumière je m'étais fait de mon importance. Je plongerai, sans bourse dans l'infini esprit sous-jacent ouvert, à tous. Ouvert à moi-même, à une nouvelle et incroyable rosée, à force d'être nul, et ras, et risible.
Mon fils, tu as déjà 60 ans. Ta vieille maman sucre les fraises. On ne veut plus d'elle au trapèze. À toi de travailler, il serait temps. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Dans notre petit cirque ambulant, il y a déjà un hélicon. Choisis donc plutôt d'être clown ou acrobate comme ta maman. Non, je veux jouer de l'hélicon. N'en parlons plus, mauvaise tête. Viens, va donc voir la femme trompe. En plus, c'est haricot de mouton. Et maman, je ne veux pas que la trompette. Je veux jouer de l'hélicon. Mon fils, tu es bien polisson de te moquer de la femme tronc. La femme tronc qui est si bonne. Et maman, que m'importe les trombones. Je veux jouer de l'hélicon. Laissons donc cette femme tronc qui a pourtant un beau tuba. Et va trouver l'homme serpent. Tu pourras jouer avec au bois. Pas du hautbois, de l'hélicon. Eh bien, y a ton ami Ellie qui n'est pas très intelligent. Si tu veux, va jouer avec lui. Et maman, c'est pas ça le vrai instrument. Moi, je veux jouer de l'hélicon. Ah, tu m'énerves, ah, ça n'est trop. Tiens, pam, 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 boum, toc, il tombe. Elle l'a tué à coup de marteau. Et l'on a fait graver dessus sa tombe. Il voulait jouer de l'hélicon. Con.
Écoute le fou qui raconte cette histoire, avec un début fortuit et aucune fin. Il inspire des essences pour tout lendemain, en se regardant l'œil dans un miroir. Où se trouve la planète Terre ? Le lieu de l'action, ce sont les nuages qu'il avale goulûment de ses yeux ronds et dont il ne laisse qu'un trait oblong planer et se noyer dans des mirages. Les personnages se perdent dans ces nuées qui s'évaporent au moindre souffle d'air, mais qui constamment reforment un vers pour une histoire jamais contée. Où se trouve la planète Terre ? Ces ombres fugaces qui couvrent les murs avec ivresse, je les vois sur le dos de ma main. Dans la chair et les os, elles pénètrent. Pénombre, demi-sourcils parsemés de syllabes dégénérescentes. Mon lit me jette à terre à chaque seconde et me rattrape sans cesse et tout chavire dans un semblant d'image. Il y a des mots dans les murs qui me fusillent du regard, crépitent, fusent, c'est le désir de gravité, l'élément essentiel qui me jette à terre, désossé. Avec cette masse informe, si délectable, si déliquescente, comme je vois des visages qui tous entre eux se ressemblent et qui vous font détester la vie, qui vous font détester les sens et aimer cet être informe, immense et minimal à la fois, qui s'évapore dès qu'on tente de le saisir. Il faut crever les murs, les défaire, les oublier, conserver l'indistinct. L'ombre pour l'ombre, le néant, l'univers. Laissez-moi dans mes brumes où je dors en hurlant. Ma vie est soluble et mon œil est ovale. Je déraille sans entrain dans des voies sans issue et reste collé sur des rampes en cavale. Je me voyais tantôt dans les yeux lumineux, plein de rêves et de cris. J'y voyais l'absolu, puis je les ai fermés dans un râle. L'on voyait dans le ciel des étoiles coulantes. Au plus clair du jour, le soleil galeux. Il fallait cligner des yeux sur des croix captivantes. Le gouffre où je me perds n'est qu'un simple petit creux. J'ai les mains trouées d'avoir trop recueilli la pluie et levant mes doigts percés vers le ciel, je dis « Je ne peux que porter des fragments de ma vie. » Puis pourtant, c'est l'amour qui éclate à mes lèvres. Je n'en ai que des morceaux qui s'éparpillent. Je suis vieille comme une vieille bille. Je ressens au tréfonds des pulsions vénéneuses qui aspirent mes os aux rayons douloureux. Ô mes couleurs, vagabondes veilleuses, vous tournez sans cesse au gris et au bleu, sous les trembles fiévreux du l'été. Pudibonde, oublieuse, vous avez dérobé un éclat dans mes yeux. Maintenant, je suis une flaque. Aux éternuements sournois, je conserve les eaux chues dans une vasque et je tremble au moindre pas. Laissez ramper mes délires sur ces cloisons fêlées. Les ombres s'augmentaient et reluisaient d'ocire, l'épée des jours anciens dont le fil est brisé. Des voix pendent leurs jambes gonflées à mon cou, l'heure est aiguë. et siffle sur mes lèvres collées l'effluve pourrie de mes souvenirs sans pouls. J'ai peur de n'être qu'un mirage de moi-même, une forme attirante de loin, inconsistante, et que le vent sème, et pas à pas, il ne reste rien. Tu m'as tué, ma vie, dans ton plus pur manège, et je reste à tourner sur de petits chevaux blancs, tandis que le corps à corps s'allège sur le grand roue mobile, le vide se suspend. Tu m'as tué, mon âme, dans tes affres sinueuses, et tu me tueras encore. Quand je n'ai pas fini d'expirer, je reviendrai sur tes chemins de délices frauduleuses. Tu m'auras vu, enfant, me débattant sur tes rêves et tremblante de tes saveurs recueillies des échos. Tu m'auras vu, lumière, suffoquant d'un accroc et croulante de fièvre sous tes fleurs vides de sève. Tu m'auras vu grandi, déliré sur l'autel nu des songes divagants où se serraient mes dents, et tombant toujours, mes borgnant, mes yeux cent fois cernés, tu les auras vus, et je t'épuiserai à toujours te contourner, comme toujours, tu me jettes sur des places bétonnées. Je planterai moi-même ces fleurs que tu m'as arrachées, et je crierai mes poèmes sur tes nihilistes allées. Je bâtirai des tours de poésie sur les tombes des rêves et soufflerai mes rimes au cimetière des idéaux vidés. Je construirai des mondes où, pour vivre, il faut aimer où les songes s'oublient, où la musique se rêve. Question. Que faire sinon toujours mourir? Qu'espérer sinon plus de néant? Ou courir sinon dans les rêves? Comment attendre seul que la nuit laisse place au jour et que le jour laisse place à la nuit? Comment entendre le bourdonnement, place de lumière, les couleurs éphémères du soleil se couchant? Comment toutes les capter? Comment les saisir? Comment les nommer et mourir en ne connaissant pas leur nom?
standing in the supermarket, nothing holding hands, in your red dress, falling, falling, falling in the long black cars waiting round.
Qui a bu ma vie et faisant mine de n'avoir rien pris, me l'a recraché au visage. J'ai longtemps honoré ton crachat. Tu mangeais mes sourires comme un miroir lance un appât. J'ai longtemps parcouru tes chemins arides et je te nommerai oubli pour me souvenir de toi. Tu me laissas moribonde dans un dédale de rue sombre et terne que je suivais pas à pas au raisonnement de ta voix qui ne m'appelait pas. Et je mourus mille, mes fantômes accrus, mes poésies mortes de n'être pas lues, et par mille morts encore je me saigne de toi. J'ai longtemps parcouru tes chemins arides et je te nommerai oubli pour me souvenir de toi. La rime sonore palpite et tremble, la mer te retourne par vagues, ton sourire qui vient de loin, de là-bas, d'un ailleurs à bout de souffle qui t'attire. Les oiseaux ne chantent pas pour toi, mais ils chantent, ils sont là, ils vivent comme tu vis et sifflent comme tu rêves. Une larme coule et se distend dans les boucles d'une vague, une note rythmée par le vent. Envol merveilleux, de voiles liquides, la lune était nue, sous les nues arides, le ciel était vide, j'étais revenu. L'immensité terrible était dévoilée et filée des étoiles sur la toile envolée, et c'était un balai quand j'ai levé les voiles. Et le long de cortège infini, par grains de poussière en catimini, des notes revernies poussaient comme du lierre. Et c'était des fissures qui couraient sur les pierres et les songes en rivière qui avaient rejailli. L'alcôve sensible respire discrètement, les sons des carillons se répandent nûment. J'ai marché longtemps sur des routes avortées, le ciel est une alcôve qui s'ouvre en dedans. Ô mon premier élément, ma vie, ma réponse, une goutte de pluie et le soupir d'un instant. L'air que j'y trouve enivre tout ce que je suis, tout ce que je sens. Et de loin, tout ce que gère, dans l'espace si plein de rien, ma vie est une chimère qui se délecte de tout, sans fin. Le monde, l'espace est glacé et les coulées sont vives dans le ciel figé. Si la vie est oisive, monochromatique dans le vide des trouées, le ciel bleu fixe au sol son souffle et ses buées. Le ciel monte aux rouées, la terre a ses narines et souffle sur elle un peu d'air glacial et pur. Un filet de glace descend aux racines et s'étend sur elle comme une triste armure, immanente brisure sur l'espace cristallisé, chaque atome s'est activé pour recevoir le monde. Mon âme a pris la mer. Elle la contient maintenant tout entière et n'en laisse pas une goutte. Elle veut pour elle ce balancement en déroute sans appui. La vision dégagée en avant, en arrière, c'est un grand courant d'air, une brise de nuit. C'est la mer démiurge dont mon âme tremblait. Un doute sous-jacent ébauché au pinceau, un dessin dans le sable, mais elle tient la puissance de créer. Tranquille, je m'abandonne au bruit incessant de l'unité sur un coin du temps, dans le songe des jours, la terre.
Taxi! Taxi! Taxi!
fin de l'hiver. La neige a coulé entre les rambardes de rouillés, les flocons se sont évaporés, il ne reste que le blanc et le froid de la neige. Il ne reste que de petites perles éparpillées et le chant de guerre d'une vieille guimbarde brisée. C'était un jour de clarté provinciale, où tout se découvre en dehors des tombeaux. L'on pouvait mourir comme est mort un Nerval, mais un air soliflore avait tiré son chapeau. Il y avait un peuple millénaire qui glorifiait nuit et jour son seul soleil éclos et ne voyait pas que déjà il était vermeil et brûlait l'or tranchant de son grand oripeau. Il fallait maintenant s'endormir sans réveil ou attraper dans le noir un frauduleux manteau. Il fallait laisser le peuple abattu dans sa prière de revoir venir un jour son seul soleil éclos. C'était un jour de clarté souveraine où l'altière mélodie avait déjà déposé ses os. Elle était morte insensiblement comme une reine, enfin sans regret et sans soubresaut. Elle avait déposé ses armes, comme on embrasse un enfant. Le silence avait épousé son vacarme, et l'on s'en allait calmement. Fin de l'hiver.
Down a ten pin alley just to see what was going on. You know things got too hot down there, and I didn't stay there too long. But I said, hey, 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 hey. You know the alley's got to be the roughest place I've ever been. Lord, all the people down there living for the whiskey, wine, and gin. I heard a woman scream, and I peeped through the door. There was some kid whipping on any weather. Lord, with a 2x4. But I said, hey, 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 hey. You know the alley's got to be the roughest place I've ever been. Lord, all the people down there hailing for the whiskey, wine, and gin. I heard a pistol shoot, and it was a .44. Somebody just killed a crapshooter because he wouldn't shake, ramp, and roll.
But I said, hey, 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 hey. You know that got to be the roughest place I've ever been in. Lord, and all the people down there living for the whiskey, wine, and gin. Come on, man. Standing with his hand on his gun, he said, "This is a raid now, boys. Lord, don't nobody try to run." But I said, hey.
Il existe un insecte que les hommes nourrissent à leurs frais. Ils ne lui doivent rien, mais ils le craignent. Celui-ci, qui n'aime pas le vin mais qui préfère le sang si on ne satisfait pas à ses besoins légitimes, serait capable, par un pouvoir occulte, de devenir aussi gros qu'un éléphant, d'écraser les hommes comme des épis. Aussi faut-il voir comme on le respecte, comme on l'entoure d'une vénération canine, comme on le place en haute estime au-dessus des animaux de la création. On lui donne la tête pour trône et lui accroche ses griffes à la racine des cheveux avec dignité. Plus tard, lorsqu'il est gras et qu'il entre dans un âge avancé, en imitant la coutume d'un peuple ancien, on le tue afin de ne pas lui faire sentir les atteintes de la vieillesse. On lui fait des funérailles grandioses, comme un héros, et la bière qui le conduit directement vers le couvercle de la tombe est portée sur les épaules par les principaux citoyens. Sur la terre humide, que le fossoyeur remue avec sa pelle sagace, on combine des phrases multicolores sur l'immortalité de l'âme, sur le néant de la vie, sur la volonté inexplicable de la Providence, et le marbre se referme à jamais sur cette existence, laborieusement remplie, qui n'est plus qu'un cadavre. La foule se disperse et la nuit ne tarde pas à couvrir de ses ombres les murailles du cimetière. Mais consolez-vous, humains, de sa perte douloureuse. Voici sa famille, innombrable, qui s'avance et dont il vous a libéralement gratifié, afin de votre désespoir fût moins amer et comme adouci par la présence agréable de ces avortons hargneux qui deviendront plus tard de magnifiques poux ornés d'une beauté remarquable, monstres à l'allure de sage. Il a couvé plusieurs douzaines de chéris sous son aile maternelle, avec vous sur vos cheveux desséchés par la succion acharnée de ces étranges redoutables. La période est proprement venue où les œufs ont éclaté. Ne craignez rien, ils ne tarderont pas à grandir. Ces adolescents philosophes, à travers cette vie éphémère, ils grandiront tellement qu'ils vous le feront sentir avec leurs griffes et leurs suçoirs. Vous ne savez pas, vous autres, pourquoi ils ne développent pas les os de votre tête, ou qu'ils se contentent d'extraire avec leur pompe la quintessence de votre sang. Attendez un instant, je vais vous le dire. C'est parce qu'ils n'ont pas la force. Soyez certain que si leur mâchoire était conforme à la mesure de leurs vœux infinis, la cervelle, la rétine des yeux, la colonne vertébrale, tout votre corps y passerait. Comme une goutte d'eau sur la tête d'un jeune mendiant des rues, observez avec un microscope un pouls qui travaille, vous m'en donnerez des nouvelles. Malheureusement, ils sont petits, ces brigands de la longue chevelure. Ils ne seraient pas bons pour être conscrits, car ils n'ont pas la taille nécessaire exigée par la loi. Ils appartiennent au monde lilliputien de ceux de la courte cuisse, et les aveugles n'hésitent pas à leur ranger parmi les infiniment petits. Malheur au cachalot qui se battrait contre un pou. Il serait dévoré en un clin d'œil malgré sa taille. il ne resterait pas la queue pour aller annoncer la nouvelle. L'éléphant se laisse caresser, le pouls, non. Je ne vous conseille pas de tenter cet essai périlleux. Gare à vous, si votre main est poilue ou que seulement elle soit un composé d'eau et de chair, c'est en fait de vos doigts. Ils craquent comme s'ils étaient de la torture. La peau disparaît par un étrange enchantement. Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination en médite. Si vous trouvez un poux dans votre route, passez votre chemin et ne lui léchez pas les papilles de la langue. Il vous arriverait quelques accidents. Cela s'est vu, n'importe. Je suis déjà content de la quantité de mal qu'il te fait, aux races humaines. Seulement, je voudrais qu'il t'en fît davantage. Jusqu'à quand garderas-tu le culte vermoulu de ce Dieu insensible à tes prières et aux offrandes généreuses que tu lui offres en holocauste expiatoire? Vois, il n'est pas reconnaissant, ce Manitou horrible. Des larges coupes de sang et de cervelle que tu répands sur les autels, pieusement décorés de guirlandes de fleurs, il n'est pas reconnaissant. Car les tremblements de terre et les tempêtes continuent de sévir depuis le commencement des choses. Et cependant, spectacle digne d'observation, plus il te montre indifférent, plus tu l'admires. On voit que tu te méfies de ces attributs qu'il cache, et ton raisonnement s'appuie sur cette considération qu'une divinité d'une puissance extrême peut seule montrer tant de mépris envers les fidèles qui obéissent à sa religion. C'est pour cela que dans chaque pays existent des dieux divers. Ici le crocodile, là la vendeuse d'amour. Mais quand il s'agit de poux, à ce nom sacré, baisant universellement les chaînes de leurs esclavages, tous les peuples s'agenouillent ensemble sur le parvis auguste devant le piédestal de l'idole informe et sanguinaire. Le peuple qui n'obéirait pas à ses propres instincts de repentance se ferait mine de révolte, disparaîtrait tôt ou tard de la terre, comme la feuille d'automne anéantie par la vengeance des dieux inexorables. Au pou, à la prunelle recroquevillée, tant que les fleuves répandront la pente de leurs eaux dans les abîmes de la mer, tant que les astres graffiront sur le sentier de leur orbite, tant que le vide muet n'aura pas d'horizon, tant que l'humanité déchirera ses propres flancs par des guerres funestes, tant que la justice divine précipitera ses foudres vengeresses sur ce globe égoïste, tant que l'homme méconnaîtra son créateur et se narguera de lui, non sans raison, en y mêlant du mépris, son règne sera assuré sur l'univers et ta dynastie étendra ses anneaux de siècle en siècle. Je te salue, soleil levant, libérateur, céleste, toi, l'ennemi invisible de l'homme. Continue de dire à la saleté de s'unir avec lui dans les embrasements impurs et de lui jurer par des sermons non écrits dans la poudre qu'elle restera son amante fidèle jusqu'à l'éternité. Baisse de temps en temps la robe de cette grande impudique en mémoire des services importants qu'elle ne manque pas de te rendre. Si elle ne séduisait pas l'homme avec ses mamelles lascives, il est probable que tu ne pourrais pas exister, toi, le produit de cet accouplement raisonnable et conséquent. Au fils de la saleté, dis à ta mère que, si elle délaisse la couche de l'homme, marchant à travers des routes solitaires, seule et sans appui, elle verra son existence compromise. Que ces entrailles qui t'ont porté 9 mois dans leurs parois parfumées s'émeuvent un instant à la pensée des dangers qui courent. Par suite, leurs tendres fruits si gentils et si tranquilles, mais déjà froids et féroces. Saleté, reine des empires, conserve aux yeux de ma haine le spectacle de l'accroissement insensible des muscles de ta progéniture affamée. Pour atteindre ce but, tu sais que tu n'as qu'à te coller plus étroitement contre les flancs de l'homme. Tu peux le faire sans inconvénient, pour la pudeur, puisque tous les deux vous êtes mariés depuis longtemps. Pour moi, il m'est permis d'ajouter quelques mots à cet hymne de glorification. Je dirais que j'ai fait construire une fosse de 40 lieues carrées et d'une profondeur relative. C'est là que gît, dans sa virginité immonde, une mine vivante de poux. Elle remplit les bas-fonds de la fosse et serpente ensuite en larges veines, denses dans toutes les directions. Voici comment j'ai construit cette mine artificielle. J'arrachais un poux femelle aux cheveux de l'humanité. On m'a vu me coucher avec lui pendant 3 nuits consécutives et je le jetais dans la fosse. La fécondation humaine, qui aurait été nulle dans d'autres cas pareils, fut acceptée cette fois par la fatalité. Et au bout de quelques jours, des millions de monstres grouillés dans un nœud compact de manière naquirent à la lumière. Ce nœud hideux devint par le temps de plus en plus immense, tout en acquérant la propriété liquide du mercure, et se ramifia en plusieurs branches qui se nourrissent actuellement en se dévorant elles-mêmes. La naissance est plus grande que la mortalité. Toutes les fois que je ne leur jette pas une pâture à un bâtard qui vient de naître, et dont la mère désirait la mort, ou un bras que je vais couper à quelques jeunes filles pendant la nuit grâce au chloroforme. Tous les 15 ans, les générations de poux qui se nourrissent de l'homme diminuent d'une manière notable et prédisent elles-mêmes infailliblement l'époque prochaine de leur complète destruction. Car l'homme, plus intelligent que son ennemi, parvient à le vaincre. Alors avec une pelle infernale qui accroît mes forces, j'extrais de cette mine inépuisable des blocs de poux, grands comme des montagnes. Je les brise à coups de hache et je les transporte, pendant des nuits profondes, dans les artères des cités. Là, au contact de la température humaine, ils se dissolvent comme au premier jour de leur formation, dans les galeries tortueuses de la mine souterraine, se creusent un lit dans le gravier et se répandent en ruisseaux dans les habitations comme les esprits nuisibles. Le gardien de la maison aboie sourdement, car il lui semble qu'une légion d'êtres inconnus perce les portes du mur et apporte la terreur au chevet du sommeil. Peut-être n'êtes-vous pas sans avoir entendu au moins une fois dans votre vie ces sortes d'aboiements douloureux et prolongés. Avec ses yeux impuissants, il tâche de percer l'obscurité de la nuit, car son cerveau de chien ne comprend pas cela. Ce bourdonnement l'irrite, et il saura qu'il est trahi. Des millions d'ennemis s'abattent ainsi sur chaque cité, comme des nuages de sauterelles. En voilà pour 15 ans. Ils combattront l'homme en lui faisant des blessures cuisantes. Après ce laps de temps, j'en enverrai d'autres. Quand j'en concasse les blocs de matière animée, il peut arriver qu'un fragment soit plus dur qu'un autre. Ces atomes s'efforcent avec rage de séparer leur agglomération pour aller tourmenter l'humanité, mais la cohésion résiste dans sa dureté. Par une suprême convulsion, ils engendrent un tel effort que la pierre, ne pouvant pas disperser ses principes vivants, s'élance d'elle-même jusqu'en haut des airs, comme par un effet de la poudre, et retombe en s'enfonçant solidement dans le sol. Parfois, le paysan rêveur aperçoit une astéroïde fendre verticalement l'espace en se dirigeant du côté du bas vers un champ de maïs. Il ne sait d'où vient la pierre. Vous avez maintenant claire et succincte l'explication du phénomène. Si la terre était couverte de poux, comme de grains de sable, le rivage de la mer, la race humaine serait anéantie, en proie à des douleurs terribles. Quel spectacle, mais avec des ailes d'ange immobiles dans les airs, pour le contempler.
Hey, baby, hey. Hey, 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 baby, hey. I love you, baby, but I sure ain't gonna be your dog. Somehow.
Il devait être 11 heures du soir. Il faisait tellement étouffant dans ce lit, une chaleur moite et lourde, un peu écœurante. J'écoutais la radio des voisins qui braillaient ces derniers concerts. C'est alors qu'il y eut cette musique. Une musique dont l'arrière-fond me paraissait très confus, mais très distinct, me parvenait le martèlement d'un tam-tam régulier, obsédant, monotone. Je dus sourire, et malgré moi, je me couchais à plat ventre, mimant le jeu du chasseur traqué, dissimulé dans quelques marécages des tropiques, imaginant le son qui se rapprochait fatalement, les cris qui éclateraient, soudain, les piétinements, puis j'entendis un bruit mat de choses qui venaient de s'enfoncer dans une matière qui avait cédé, et, oui, presque sans le vouloir, je touchai les murs et la deuxième javelot se ficha également en plein mur, à quelques centimètres de ma main.
Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, try to get in touch with me. She could not leave her number, but I know who placed the call. Cause my uncle took the message and he wrote it on the wall. Help me, information, get in touch with my Marie. She's the only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Her home is on the south side, high up on a ridge, just a half a mile from the Mississippi Bridge. More than that I cannot add, only that I miss her and all the fun we had. But we were pulled apart because her mom did not agree and tore apart our happy home in Memphis, Tennessee. Last time I saw Marie, she's waving me goodbye with hurry home drops on her from her eye. Marie is only 6 years old. Information, please. Try to put me through to her in Memphis, Tennessee.
Le tapis. L'enfant avait placé une vaste caisse au milieu de la chambre. Et depuis quelques heures déjà, il naviguait ainsi, brassant le vide, dévisageant l'horizon enfui dans le mur, le tapis figurant l'océan, la caisse un voilier de fort tonnage. Vers 6 heures, comme chaque soir à 7 heures, le père rentra du travail. Il pénétra dans le salon, il eut le temps de désapprouver l'idée de son fils, il atteignit à cet instant le tapis, coula à pic et se noya. L'affiche, c'était une énorme affiche, très haute, très large. Un fond de couleur livide sur laquelle se profilait une énorme fille qui allait vider un gigantesque verre de vin bien sanglant, bien tonique. À part cela, l'affiche faisait face à un carrefour dangereux. Tellement dangereux qu'un jour un camion fit une embardée pour éviter un piéton. Il tourna sur lui-même, alla ensuite se flanquer en pleine affiche, frôlant les pieds de la jeune fille sans la toucher toutefois. Le chauffeur, lui non plus, ne fut pas atteint. Mais il resta stupéfait en regardant l'affiche. Elle était intacte, en effet, mais le verre de vin était vide. La jeune fille, prise de panique, l'avait vidé d'un seul coup. Les revenants. Un jour, il revint sur terre. Ils nous apprirent que nous étions ni des animaux, ni des purs esprits, ni des êtres humains, mais des robots de chair, car ils avaient utilisé cette matière pour nous fabriquer. Ils nous avaient d'ailleurs façonné leur image, mais très grossièrement à la hâte, sans fignoler les détails. Eux seuls étaient les êtres humains de cette planète. Ils l'avaient d'ailleurs quittée depuis bien longtemps, ils nous l'avaient laissée, parce qu'ils étaient indolents et qu'ils nous avaient conçus industrieux, travailleurs, gavés de conscience professionnelle et d'ambition. Pendant des siècles, nous avions été, à notre insu, les métayers de leur terre. Mais ils étaient revenus, et dans le regard atone qu'ils nous accordaient, il n'y avait ni reconnaissance, ni indulgence.
Thank you.
C'était l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Vous avez entendu des textes d'Aimé Césaire, de Boris Vian, d'Henri Michaud, de Léon Tréhamon, de Jacques Sternberg et de Pauline Sauve.
Pauline Sauve, qui sera pour la présentation de son recueil de poésie que je vous ai lu tout à l'heure, qui s'intitule « Au déclin du soleil s'élance le levant », Pauline Sauve sera à la librairie Regain de Reillanne à partir de 18h, samedi 7 avril.
Vous avez entendu des musiques de Baron Eraser, de Tricky, de Screaming Joe Kings, de Johnny Cash, d'Eric Satie, de Bobby Lapointe, de Nick Cave, de Shigeru Umebayashi, de Tom Waits, de Melvin Taylor, de Big Bill Brunzi et de Chuck Berry. Nous nous retrouverons le 26 avril pour la prochaine émission où nous accueillerons le poète Gérald Chéreau. Donc le 26 avril à 18h30, des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés.
Bonsoir.
Bonsoir.